tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre début de semaine se passe merveilleusement bien à l'écoute de Radioactive. On se retrouve maintenant pour un nouveau numéro de l'émission Tourangeau Écolo qui vous présente toutes les belles initiatives locales tournées vers l'écologie. Et dans ce nouveau numéro, on a décidé de se pencher sur la faune locale, mais pas n'importe laquelle. En effet, on s'est intéressé particulièrement aux oiseaux avec notre nouvelle invitée, qui est membre de la LPO, ou Ligue pour les oiseaux du 37. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ?
Bonjour, je m'appelle Alain Bloquet, je suis retraité. Je suis arrivé en Touraine en septembre 2010. Et tout de suite, j'ai intégré, comme je faisais déjà partie d'un groupe ornitho en région parisienne, j'ai tout de suite intégré la LPO Touraine en tant que bénévole.
Et donc aujourd'hui, vous êtes toujours bénévole, c'est ça ?
Oui, toujours bénévole, oui.
Oui, donc ça, c'est pas votre départ dans l'ornithologie, vous étiez déjà intéressé ?
Oui, tout à fait, oui. J'étais en région parisienne et il s'avère que je suis devenu bénévole en croisant... Alors maintenant, ils sont LPO. Mais à l'époque, ça s'appelle le Centre ornithologique de la région Île-de-France.
D'accord, donc une vraie passion pour les oiseaux.
Tout à fait.
Et donc, vous avez rejoint en 2010 la LPO. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette Ligue de protection des oiseaux ? Quand est-ce qu'elle est née ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été créée en 1912 en créant la réserve naturelle des sept îles, encore aujourd'hui gérée par la LPO. Et c'est surtout ce qui a déclenché, c'était le massacre des macareux par des chasseurs. Et d'ailleurs, le macareux est devenu l'emblème de la LPO. Alors la LPO, au départ, elle s'est constituée à partir de groupes ornithologiques. Il existait plein de gens qui étaient passionnés par l'ornithologie et ils fondaient des groupes. Et c'est comme ça que petit à petit, la LPO a grandi à l'aide de ces groupes qui sont devenus donc des LPO.
Et donc, il y a des délégations régionales, comme en Indre-et-Loire, on a une délégation.
En Indre-et-Loire, il y avait ce qu'on appelle le groupe, le GOT, hein, que je n'ai pas connu, mais qui s'appelait le groupe ornithologie de Touraine, donc qui doit avoir, je ne sais pas, 70 ans au moins. Donc, voilà.
Oui, donc ce n'est pas une histoire nouvelle, hein, c'est vraiment une institution comme association. Donc, elle a des missions assez diverses, assez larges, la LPO. Elle fait du comptage d'individus, mais elle fait aussi de la sensibilisation. C'est important pour l'association de le faire.
Oui, tout à fait. Je vais revenir un peu avant sur pourquoi la LPO s'est constituée, oui. Puis de quoi elle s'est occupée. Alors, ça a été surtout elle a été sensibilisée au niveau biodiversité d'entrée pour l'atténuation des effets néfastes de l'agriculture, hein, et la lutte contre les abus de la chasse, parce qu'à l'époque, la preuve, il y avait
l'histoire des
macareux, mais il n'y avait pas que. À cette époque-là, les oiseaux, il y avait du commerce d'oiseaux, il y avait du piégeage pour le commerce, alors soit des plumes, soit par exemple pour l'alimentation, ou des oiseaux étaient capturés pour le champ. Donc tout ça, maintenant, ça a été un peu aboli. Et puis, au départ, c'était aussi pour le suivi des migrations et l'éducation des jeunes, sensibiliser les jeunes à ce problème, cette protection des oiseaux.
Aujourd'hui encore, est-ce qu'on retrouve, même si ça a été interdit, des formes de braconnage d'oiseaux en France ou... Enfin, est-ce que c'est aussi un truc contre lequel vous luttez encore ?
Alors, malheureusement, il en existe encore quelques cas. Il y en a eu récemment en Touraine.
D'accord.
C'est surtout... Je dirais une espèce, c'est les passereaux, comme les chardonnerets, qui sont un des plus beaux passereaux et qui, malheureusement pour lui, chantent bien. Donc, il y a du trafic avec ces oiseaux.
Et comment vous agissez justement pour lutter contre ça ? Donc, les réserves, comme la réserve des sept îles en Touraine, par exemple, comment vous pouvez agir contre ces phénomènes ? Qu'est-ce que vous faites ? Avec l'éducation, par exemple ?
Oui, tout à fait. Quand j'anime des sorties, quand je rencontre des jeunes ou même des moins jeunes, on sensibilise surtout, par exemple, à la biodiversité, l'effet de tout ce qui est pesticides et tout ça. Et justement, on en parlera peut-être un peu plus tard, le déclin de certains oiseaux qui sont dus à ça. Donc, on sensibilise comme ça.
Et donc, vous animez, comme vous disiez, des sorties. Elles ont lieu où, ces sorties ? Dans des forêts ou c'est en...
Ah, on fait les sorties de la LPO en général sont sorties tout milieu, parce qu'on a des oiseaux dans tous les milieux. Donc... En Indre-et-Loire, ça va être aussi bien sur les bords de Loire, dans les bois, dans des jardins, en pleine campagne, pour faire découvrir justement toutes les variétés d'oiseaux à travers les différents types de milieux.
Oui, il y a aussi les temps, vous pouvez écouter les chants des oiseaux, etc. aussi. Ouais.
Là, si on parle en ce moment, c'est la période des accouplements des oiseaux et le retour de migration. Donc en ce moment, c'est surtout des champs. Les principales sorties, les sorties qui vont venir là, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, ça va être surtout consacré aux champs.
Et c'est vrai qu'on est, on se rend pas souvent compte, mais en Indre-et-Loire, on a une grande diversité d'oiseaux également.
Alors, je pense, je voulais pas dire de bêtises, je crois que c'est 130 espèces d'oiseaux.
Vous en avez que vous affectionnez particulièrement ?
Ah, alors, les affectifs pour certains types d'oiseaux, ça, c'est chaque personne, chaque ornitho. Disons que j'aime bien certains rapaces qui sont un peu rares en Indre-et-Loire, tels que les lagnons, qui est un oiseau qui est super, qui est blanc. On a un qu'on suit aussi, c'est le balbuzard pêcheur. En Loire, quand on le voit plonger, ça nous laisse un souvenir très agréable. Voilà, parmi les oiseaux. Et puis, les rapaces nocturnes, c'est surtout les... Je sais pas, personnellement, c'est les rapaces.
Et plus largement, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un net déclin des populations d'oiseaux en Europe en général. Beaucoup de recherches ont été faites dessus et qui ont montré des chutes conséquentes. Et donc, vous parliez tout à l'heure de l'agriculture, de la chasse. C'est tous ces éléments-là qui entraînent leur déclin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments
Je dirais que c'est depuis quand même un certain nombre d'années, on tire la sonnette d'alarme. Il y a surtout eu... La sonnette d'alarme, en fonction de la politique agricole commune, c'est surtout ça, où y a eu des disparitions de beaucoup d'insectes. Là, récemment, dans le dernier magazine que publie la LPO, il y a un monsieur qui a écrit un article très intéressant qui parlait des vers de terre. Et c'est vrai que avec les traitements, par exemple, qu'ils ont fait intensifs et tous les produits qu'ils ont mis, il y a eu une disparition énorme de vers de terre. C'est un aliment des oiseaux, donc ça a été un des motifs de déclin des oiseaux.
Oui, un vrai trouble de toute la chaîne alimentaire, en fait.
Voilà.
Et il y a aussi donc, la chasse qui...
La chasse, il y a une autre chose. C'est, par exemple, les animaux domestiques. On a plus en plus de chats. Donc les chats, ils aiment bien attraper les oiseaux, donc ça participe au déclin. Il y a la chasse. Alors la chasse, par exemple, en France, il y a 64 d'espèces oiseaux chassables, alors qu'il y en a seulement une trentaine dans les autres pays. Donc ça, c'est une des bagarres de la LPO, c'est d'essayer de la liste qui est autorisée en France diminue. Et puis, il y a des fois, oui, notamment, nous, ce qui nous chagrine, c'est qu'il y a des fois, par exemple, on crée des suivis de certains oiseaux, donc on les bague, par exemple, ou on leur met des balises, et malheureusement, on arrive à les retrouver qui ont été... avec du plomb dans l'aile, c'est le cas de dire.
Ah oui.
Donc ça, c'est une partie des chasseurs qui sont très indélicats et qui nous créent un gros problème.
Et d'ailleurs, ces comptages d'oiseaux, ça fait des bases de données. C'est ça, vous faites des bases de données avec ces comptages? Comment ça fonctionne?
Alors, il y a deux modes. Là, actuellement, par exemple, il y a la LPO et les associations naturalistes, il n'y a pas que LPO, ont créé... Alors, on essaye qu'il y en ait le minimum possible pour ne pas diversifier. Il vaut mieux concentrer au niveau national les données. Mais il y a ce qui s'appelle Faune France. Et dans Faune France, il y a tous les départements. Et on note des œufs... Les gens qui veulent bien, moi j'en fais partie. Le but du jeu, ça serait qu'il y ait de plus en plus de gens qui mettent leurs données. Donc moi, quand je sors ou quand je fais une animation, j'essaye de noter toutes les espèces que j'entends ou que je vois. Donc il y a ça. Et puis il y a des espèces bien particulières. Alors par exemple, je pourrais en citer quelques-unes en Touraine, dont mon épouse, on participe pour les comptages des suivis. Tous les ans, on va essayer de les trouver sur le terrain. Il y a les oedygdèmes, il y a les outardes, il y a les busards cendrés. Cette année, il va y avoir, on demande à ce qu'on essaie de trouver tout ce qui est hirondelles, surtout de fenêtres et hirondelles rustiques, parce que c'est en voie de disparition. Et puis des espèces, puisqu'on est à Amboise, il y a une petite colonie, mais toute petite, de moineaux friquets, qui est l'équivalent du moineau domestique, mais qui, pratiquement, il n'y en a pratiquement plus. Donc, par exemple, il y en a une ici, là, à côté, à l'île d'Or. Donc, mais c'est juste ce qu'on a recensé. Il y a une dizaine d'individus, donc vous voyez, c'est
très
peu. Ah
oui, c'est vraiment très peu, oui.
Très peu.
Et c'est difficile, en fait, de les protéger ou de faire en sorte d'éviter la diminution de ces espèces.
Là, si je parle du moineau friquet, par exemple, moi, je l'ai constaté par moi-même, il y a une lutte avec le moineau domestique qui est beaucoup plus costaud, et bien souvent, le moineau domestique ne tolère pas le moineau friquet dans son environnement. Donc, on a vu des scènes où ils sortent les petits dénis pour éviter la concurrence.
Oui, ça n'aide pas non plus, finalement.
Non.
Et donc, à l'échelle locale, donc, vous essayez d'agir aussi, donc, soit en ayant un soutien un peu politique. D'ailleurs, est-ce que vous le trouvez ? Est-ce que vous avez un peu un soutien des institutions locales ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tout ça, c'est varié. Mais actuellement, je peux dire, enfin, moi, je regarde depuis que je suis là, il semblerait qu'on ait de plus en plus de contacts avec certaines municipalités et surtout... Il y a, je dirais, avec les monuments. Or, les monuments, ils accueillent beaucoup de monde. Et justement, surtout dans les châteaux, ils ont des espèces, j'ai évoqué les hirondelles, mais il y a aussi les martinets. Donc avec eux, disons que ces monuments cherchent à être refuges LPO. Donc on signe une charte avec eux, ils s'engagent. La charte comprend le fait qu'il ne faut pas traiter, il faut éviter de tondre les pelouses. Donc ce n'est pas toujours facile, mais bon, on arrive. Donc il y a ça. Et puis il y a les municipalités, on peut citer surtout Amboise, puisqu'on est Amboise, on peut le citer. Parce que la communauté de communes du Val d'Amboise a fait un financement pour qu'il y ait un atlas de la biodiversité communale. Donc ça a duré 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais 2 ans et demi, 3 ans.
On était partenaires aussi.
Ouais. Et ils ont été, ils ont eu un prix dans la catégorie connaître pour cela. Et donc, la LPO a participé pour les comptages d'oiseaux. Donc, de plus en plus, je pense qu'il y a les communes qui ont conscience de répertorier leur biodiversité. Et je peux citer d'autres exemples. Je sais qu'à Saint-Cyr, par exemple, ça fait 300 qu'on pose des nichoirs tous les ans pour limiter les chenilles processionnaires.
D'accord.
Plutôt que mettre du produit. Et puis, les chenilles processionnaires ne sont pas évidentes à détruire, entre guillemets. Donc, il y a une variété. Les mésanges bleus se nourrissent.
Des
chenilles processionnaires. Donc, vous voyez, on a des partenariats comme ça.
Mmh. Et ça permet aussi pour les monuments, notamment, de faire de la sensibilisation, peut-être, auprès des publics qui viennent les voir.
Alors, pour la première fois, par exemple, il va y avoir, par exemple, au Clos Lucé, c'est la première fois, hein, un animateur de la LPO qui sera là. Et le Clos Lucé va faire pour les visiteurs, donc là, les gens ne vont pas spécialement pour l'animation. Quand ils vont rentrer dans le Clos Lucé, on va annoncer aux gens que s'ils veulent, ils vont avoir une animation faite par un animateur, donc salarié de la LPO. Et donc, pendant 2 heures, on a ce salarié qui va montrer tout ce qui est oiseau, point de vue, dans le Clos Lucé. Et je peux vous dire, pour avoir fait les comptages avec cet animateur, il y a de quoi faire.
Il y a plein d'autres.
Ouais, voilà.
Il y a plein de choses à voir et à écouter, du coup, aussi.
Voilà.
Donc, votre association a besoin de beaucoup de bénévoles pour tourner, pour faire toutes les actions qu'elle a, faire marcher le journal, faire les comptages. Qu'est-ce que peuvent faire d'autres, par exemple, les bénévoles qui s'engagent à la LPO ?
Alors, déjà, il faut savoir qu'au niveau de la LPO, en tout, il y a environ 8000 bénévoles. La LPO Centre Val de Loire, depuis 2021, la LPO a fait des structures régionales. Donc, chez nous, c'est la région Centre Val de Loire. Et donc, on a, pour la région Centre-Val de Loire, on a 11 salariés. Alors, pour la Touraine, on a 260 bénévoles environ.
C'est conséquent.
Oui. Alors, le travail du bénévole. Alors, différentes choses. Et chacun peut faire ce qu'il veut, disons.
En fonction de ses points forts, c'est ça et de...
Alors, il y a des fois faire des stands. Maintenant, ça va arriver maintenant. Toutes les manifestations sur les fleurs, comme ça, on nous demande si on veut bien tenir un stand. Alors, si on trouve des bénévoles qui sont partants, donc on anime des stands où on fait connaître la LPO. Il y a les animations au grand public, alors à la fois par les salariés, donc qui vont dans les écoles ou dans des structures bien particulières, voire les prisons. Il y a aussi des ateliers pour les constructions de nids. Il y a des fois pour faire découvrir. On fait des ateliers de construction de nids, alors ça, ou de montage de nids. En ce moment, on a beaucoup d'ateliers où on fait vraiment qu'à des enfants ou même à des étudiants des nids d'hirondelles.
D'accord.
Des deux sortes de nids d'hirondelles. Hein, ça consiste en une matinée à mettre les mains dans le plâtre et puis à faire des...
Et après, vous allez les disposer, ces nids
Alors oui, généralement, oui. Le but, c'est de... certaines communes nous demandent et puis c'est d'en avoir d'avance. Alors, ce qu'il faut savoir, que les nids, pratiquement dans l'ensemble, tous les nids sont protégés. Mais surtout, où on a un gros souci, c'est les nids, justement, d'hirondelles, aussi bien rustiques que de fenêtres. Alors, le problème des hirondelles de fenêtres, c'est qu'elles viennent se loger, comme leur nom l'indique, des fois sur les fenêtres, et à fond des salissures, les gens ne les aiment pas. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous dire quelque chose que j'ai vérifié, ça me semble tellement énorme, c'est que si vous arrachez un nid d'hirondelles, c'est passible. La loi, c'est la loi. Bon, c'est jamais fait, ça se produit jamais. C'est 3 ans d'emprisonnement et, j'ai vérifié mes sources, 150 000 euros d'amende.
Ah oui.
Logiquement.
On en arrivera vraiment à ce cas-là, mais c'est quand même...
Ça serait la limite extrême. Mmh. Alors, ce qui se passe, c'est bien souvent, quand il y a des travaux, par exemple, dans des monuments ou même des structures comme... C'est arrivé, la première fois, c'est arrivé à Amboise, sur le Mail. La Caisse d'épargne, par exemple, en pleine période de nidification, il y a eu un ravalement. Or, ça, c'est un procès. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de déranger les oiseaux pendant d'avril à septembre, oui. Pendant la période de nidification.
Donc, du coup, ça se passe comment ? Vous pouvez vous occuper des nids ou comment ça peut se passer ?
Alors, il y a deux choses. Par exemple, au niveau de la Touraine, on a un partenariat avec Val Touraine Habitat où ils nous donnent, par exemple, la liste des travaux qu'ils vont engager dans les logements sociaux dans l'année. Et alors, c'est là qu'il y a les bénévoles, parce que les bénévoles, avec l'aide de cette liste, vont voir les endroits où il y aura des travaux et on va voir s'il y a présence de nids ou pas. Dans le cas de présence de nids, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, ils font les travaux, les nids sont censés, et en compensation, des nids sont reposés. Alors c'est justement les nids qu'on fabrique dans les ateliers qui vont être mis en place. Un exemple, pas plus tard qu'hier, avec mon épouse, on était au château d'Amboise. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux au niveau de la chapelle. Et donc, les travaux empêchaient l'accès des nids aux oiseaux. Donc, au niveau des échafaudages, on avait posé des nids de ce qu'on appelle de substitution. Donc, au niveau de la chapelle, c'était pour les martinets. Et au niveau de la tour Horto, il y a eu plein de nids d'hirondelles de fenêtres posées. Donc là, hier, par exemple, les nids, on a fait poser des nids au niveau de la tour Horto, des nids à martinets. Donc, plein de nids pour assurer celui, pour qu'il y ait la continuité de la colonie d'oiseaux qui aurait pu y avoir au niveau de la chapelle.
Oui, donc il y a quand même des moyens d'agir de la part de l'association. Et donc, vous parliez tout à l'heure des stands et des événements. Il y en a qui arrivent beaucoup. Est-ce que vous serez présent sur certains événements prochainement pour parler de la LPO ? Il y a peut-être la fête des plantes au château de la Bourdésière, non ? Vous parliez tout à l'heure d'une fête des plantes.
La Bourdésière, ça nous est arrivé de le faire, notamment avec mon épouse. Non, mais je sais qu'il y a la fête des plantes à Épeigné, là, qui va arriver. Il y a, surtout, qui a un gros succès, c'est la fête des roses à Chédigny. Moi, j'ai la fête de la biodiversité qui va avoir lieu à Nazelles-Négron. Puis il y en a d'autres sur Tours, mais comme on habite avec mon épouse, on habite dans l'Est Tourangeau. On a plutôt à répondre dans l'Est Tourangeau, mais je sais que, disons, il y a plein de demandes et on ne peut pas assurer tous les stands, malheureusement.
Oui, pour ça, il faut des bénévoles.
Il faut des bénévoles.
Et d'ailleurs, si on veut donc soit connaître vos événements, soit on veut aider l'association en s'inscrivant, en devenant bénévole, comment on vous contacte ? Par où on retrouve l'association ? Est-ce que vous avez un site internet ?
Il y a un site internet que j'ai consulté récemment, justement, qui est très bien fait, qui a été remis à jour, qui est bien beaucoup plus pratique, où on a toutes les sorties, tout ce qu'on peut avoir besoin d'aide. Par exemple, il va y avoir prochainement, sur la Loire, il y a plein d'îlots où il y a les sternes qui nichent. Or, de plus en plus avec la navigation de plaisir, on a des gros problèmes. Donc, on a des opérations de panotage qu'on fait tous les ans en tête des îlots. Quand je dis en tête, c'est parce que c'est en aval. Non, en amont, pardon.
En amont, oui.
En amont, pardon. on met des piquets avec représentant une sterne et puis de ne pas poser le pied. Parce que au moment où ça niche, il faut dire que...
Ça leur fait peur et ça les fait fuir.
Non, oui, ça les fait peur. Et puis, comme si c'est en plein soleil, les œufs cuits ou même les petits, ils sont abandonnés en plein soleil.
Donc oui, il y a plein de possibilités d'aider la LPO ou de la rejoindre ou de la soutenir.
Oui, voilà, on peut...
Ou alors se rendre juste sur leur sortie pour en apprendre plus sur les oiseaux sur le territoire.
Tout à fait, oui.
Il faut se renseigner sur le site internet pour voir toutes les prochaines sorties pour les enfants ou les adultes et pouvoir s'inscrire. Merci à vous, en tout cas, d'être passé.
Je vais rajouter une dernière chose. C'est que depuis un an, chose qui n'existait pas, la LPO a créé une école d'ornithologie. Donc maintenant, on va pouvoir former des ornithos...
Sur la région ou en...
Non, c'est au niveau national.
D'accord.
Avec des stages, éventuellement, ces gens-là peuvent venir en Touraine, parce qu'on a un animateur en Touraine qui est capable d'encadrer cette école, des cours. Donc, c'est au niveau national et voilà, donc ça va...
C'est une belle avancée.
Il faut espérer.
C'est pour les bénévoles, donc, de l'association, entre autres.
Oui, entre autres, et puis pour tous les jeunes qui seraient intéressés, parce qu'il n'existait pas de structure qui forme spécifiquement l'ornithologie. On apprend par soi-même.
Bah, merci à vous en tout cas d'être venu sur Radioactive.
Non.
Et bon courage pour vos sorties.
Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt, à nos sorties.
Exactement. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Tourangeau Écolo. Nous, on se retrouve lundi prochain pour parler toujours plus d'écologie en Touraine. Et en attendant, bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.